Les premières victimes de la malnutrition au Canada ont été identifiées parmi les populations autochtones et noires. Une étude publiée par plusieurs chercheurs et chercheuses en santé a mis en avant l'insécurité alimentaire et ses conséquences chez les enfants et les jeunes autochtones au Canada. Ce problème touche un grand nombre du demi-million d'enfants inuits, métis et des Premières Nations, en particulier dans les communautés nordiques isolées. Cette situation peut conduire à la malnutrition et avoir des répercussions importantes sur le développement physique, intellectuel, émotionnel et social de l'enfant, avec souvent des effets durables tout au long de la vie. La première autrice de cette étude est Anna Banerjee, professeure adjointe à l'Université de Toronto. Sa collègue Véronique Anne Pelletier, chercheuse en santé métabolique et cardiovasculaire au CHU de Sainte-Justine à Montréal, et deuxième autrice de ce travail de reviewing des publications, répond à nos questions. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer quelle est la cause première de l'insécurité alimentaire?
C'est pas la même. Qu'est-ce qui est la première dans chaque communauté? Mais ce qui vraiment ressort dans ce qu'on a, ce qui a été étudié là, c'est l'élément de pauvreté, comme on en avait, ça a été nommé dans l'article. C'est un des facteurs principaux, mais il va peut-être se manifester de façon différente selon les communautés. Et puis les médiateurs, c'est-à-dire que là où c'est le pire, hein, c'est vraiment dans le Grand Nord du Canada, avec des taux très élevés là, qui sont pas loin dans les 50% pour certains enfants. Et le coût de la nourriture qui est très élevé dans le Nord, donc il y a tous les facteurs de transport. Il y a les facteurs pour ceux qui ont accès à une nourriture, qui peuvent aller chasser, mais il faut qu'ils payent leurs équipements, là, ce qui n'est pas du tout évident pour le Sud. Là, c'est pas du tout intuitif pour nous au Sud, mais ceux qui peuvent aller chasser les animaux, alors ils doivent payer soit l'essence pour leur véhicule, l'équipement pour la chasse. Et donc ça, souvent, est un facteur limitatif. Donc, c'est beaucoup l'élément d'accès à la nourriture, le coût de la nourriture qui est très élevé et puis qui monte encore. Tu sais, c'est ça. L'autre élément, c'est d'être capable d'avoir accès, tu sais, de ta propre, de faire pousser tes aliments et tout ça dans ton propre environnement, puis d'en avoir le propre contrôle.
Ce qui est intéressant, c'est que vous questionnez aussi s'il existe des solutions possibles. Est-ce que vous pouvez me parler les recommandations?
Mais c'est des propositions de stratégies. Mais il y a une des stratégies, parce que, en fait, je pense que la chose importante aussi qui doit être soulignée, c'est que si un enfant, quand on parle de l'insécurité alimentaire, hein, on parle d'abord l'accès à la nourriture, la qualité et la quantité de nourriture, puis avoir la possibilité que ça soit pérenne, que ça puisse continuer, que c'est pas juste quelque chose de ponctuel. Alors, l'accès en quantité et en qualité, si les enfants ont soit une alimentation qui est nettement insuffisante en qualité pour rencontrer leurs besoins nutritionnels, puis lorsqu'on voit dans des situations d'insécurité alimentaire modérée ou sévère, dans sévère où des fois un enfant ne peut pas manger de la journée, ces situations-là peuvent éventuellement être associées avec la malnutrition, ou tu conduire à de la malnutrition. Puis la malnutrition, ben ça peut être qu'on en a définitivement pas assez. Éventuellement, on se retrouve à avoir une malnutrition par déficit. Et chez certains enfants, là, dans les communautés du Nord, dans le Nunavut, il y avait des enfants qui démontraient que leur taille, elle était plus petite. Ils n'atteignaient pas leur taille optimale, ce qu'on appelle en anglais stunted. Et ça est un reflet d'une malnutrition chronique, une malnutrition par déficit. Mais aussi, il y a la malnutrition par, c'est-à-dire qu'on a un excès de calories. On n'a pas nécessairement les apports de protéines parce que ça coûte moins cher. Quand on a moins d'argent, on a tendance à aller vers les calories denses et énergétiques. Et là, on se retrouve avec des problèmes d'obésité. Alors, les insuffisances, c'est-à-dire pas avoir accès en quantité, en qualité, de façon importante, éventuellement, a des conséquences sur l'état nutritionnel de l'enfant, sur sa croissance, peut avoir un effet au niveau de la santé mentale. L'autre élément, puis au niveau cognitif, alors les capacités de performance à l'école. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, il y a différentes choses qui sont proposées, mais une des choses, c'est qu'on propose, c'est qu'il puisse y avoir un espèce de un programme national pour assurer une alimentation, que ça devienne un peu comme une priorité de s'assurer que tous les enfants dans les communautés autochtones puissent avoir, c'est-à-dire qu'on mette en place ce qui, selon les communautés, ce qui va être différent d'une communauté à l'autre, permettra que tous les enfants puissent avoir accès à une nourriture en qualité et en quantité de façon régulière. Donc ça, c'est d'abord comme un genre de policy. Ça, c'est une des propositions. Et puis, il y a aussi les trois organisations autochtones au Canada qui ont mis de l'avant différents programmes, différentes recommandations, et dans une, particulièrement celle pour les Premières Nations, mais ils ont, il y a eu une étude dans 92 communautés au Canada avec des chercheurs de l'Université de Montréal et autres, et Ottawa, entre autres, et ils ont mis de l'avant des propositions. Donc, un, c'est qu'on puisse aller répondre ou endosser les propositions des Premières Nations. Il y a aussi les Inuits qui, avec leur organisation, ont fait des propositions et plus récemment, chez les Métis. Donc, chacune des organisations a fait des propositions et là, c'est ça qu'il faut aller regarder et s'assurer qu'on puisse avoir le support au niveau du gouvernement pour pouvoir les mettre en place.
Et vous, ensuite, vous faites une proposition aussi qui est intéressante, qui est indiquée pour les cliniciens, pour les praticiens.
Pour ce qui est des cliniciens, alors moi je suis clinicienne, Dr Banerjee est clinicienne aussi, je suis pédiatre, elle est pédiatre, plus orientée en maladies infectieuses, moi plus les aspects de la nutrition, j'ai fait du support nutritionnel pendant plusieurs années, puis j'ai travaillé avec les enfants infectés par le VIH, et la façon dont, là où je me suis retrouvée dans cette équipe-là, c'était à cause de ma formation justement en support nutritionnel. Mais nous, comme cliniciens, souvent nous voyons les enfants, quand on peut les voir à la clinique, mais on voit différents problèmes, on voit des conséquences, mais c'est pas toujours dans les mœurs ou dans les pratiques courantes d'emblée d'aller chercher des facteurs de s'assurer, mais tu sais, soit l'enfant a une obésité ou il a un retard de poids, ben est-ce qu'il a accès à la nourriture, est-ce qu'il a accès à une nourriture de qualité? Et puis l'autre élément que bon, parfois, il peut avoir besoin de suppléments nutritionnels. L'autre chose, c'est il faut que, à travers, particulièrement dans les communautés où on est dans, là où on est dans des communautés autochtones, en ville, c'est un peu différent, mais là où on le peut, puis même l'encourager, il y a des traditional knowledge keepers, des gens des communautés qui ont des connaissances nutritionnelles. Qu'est-ce que les ancêtres ont fait pendant des centaines d'années, des milliers d'années pour arriver à maintenir un état nutritionnel adéquat pour leur population. Donc, intégrer et aussi, tu sais, c'est pas pour ceux qui ont accès à la nourriture traditionnelle versus le market food, la nourriture qu'on achète au supermarché. Ben à ce moment-là, essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'ils ont accès pour pouvoir compenser. Donc, ceux qui sont des chasseurs puis qui ont de l'accès à de la viande, ben la viande de chasse est sûrement meilleure que de manger des trucs sucrés et autres. Des suppléments, les suppléments et les vitamines, ça, en général, les médecins n'ont pas trop de difficultés de ce côté-là. Par contre, un élément qui n'est pas systématique chez tous les cliniciens, c'est de dire, ben écoutez, je pense qu'on va parler, surtout quand on travaille sur une communauté, d'être en lien avec les leaders de la communauté, les conseils de bande ou autres, et puis la santé publique. Et puis à un moment donné, ben là, j'ai envoyé réponse à un infirmier praticien spécialisé, j'ai dit, écoute, peut-être qu'on devrait regarder. C'est pas à moi à le faire, parce que j'ai pas ces éléments d'autorité, mais si cette personne sur la communauté a des enfants qui sont référés, là, qui étaient référés à Sainte-Justine, et bien ils savent comment communiquer avec les leaders de la communauté, bien à ce moment-là, ça peut nous aider à faire avancer les choses. Donc, c'est-à-dire que nous aider, pas nous aider moi, mais aider la communauté ou les enfants. Il y a différents volets, puis il y a aussi d'essayer de comprendre, comprendre par communauté, par individu, qu'est-ce qui sous-tend l'accès à une nourriture de qualité. Et
Mais c'est, y a, dans cette étude, il y a aussi une mise en lumière, je trouve, des effets de la colonisation qui sont déjà des résidus, mais aussi un regard aujourd'hui de la part de la société sur une population qui aurait besoin qu'on change de regard. Et est-ce que vous avez constaté au cours de cette étude et de cette revue des études que les facteurs aggravants ou du moins les dommages collatéraux liés à la colonisation diminuent ces dernières années? Est-ce qu'il y a un changement vers le mieux ou non, justement, on est à un statu quo et il faut vraiment changer un peu le paradigme?
Ben, je ne suis pas capable de dire pour le mieux. Mon constat, ça c'est très personnel, c'est qu'il y a une prise de conscience. Mais la première fois personnellement que ce vocabulaire de la colonisation, que ça revient, puis parce qu'on est très, très, très inconscient de tout ça, c'était lorsque j'ai relu toutes les pages du document des femmes disparues et tuées, et les femmes et les filles et tout ça, là, ce document-là qui était, je crois, en 2020, si je ne me trompe pas, 2019-2020. Et ça revient régulièrement. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit « Oh! » Et en fait, il n'y a pas de prise de conscience. Mais quand on lit l'histoire, quand on lit ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'historique, qu'on apprend sur les pensionnats autochtones, mais même avant ça, c'est qu'en fait, il y avait des communautés qui vivaient ici, en harmonie avec la nature. Il y avait, puis tu sais, quand on l'entend de, par exemple, Joséphine Bacon ou autre, mon IGA, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Loblaws, à Toronto, mais mon supermarché, c'était le Nujmet, donc c'est le territoire. Et le Shoppers Drug Mart, la pharmacie, c'est le Nujmet. Et ça a été complètement, là je vais vous dire le mot en anglais, disrupted, avec l'arrivée de la colonisation. Après tout ce qui s'est passé, les pensionnats, etc. Et on a tout détruit. Essayer d'enlever la langue, essayer d'enlever la culture. Chez les Inuits, leurs chiens ont été tués, donc ils ne pouvaient plus se déplacer. Donc tout ça, la majorité de la population, on n'en est pas conscient. Et la majorité des impacts ont à voir avec, effectivement, la colonisation. Ce qu'il y a de différent, je vous dirais, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'informations qui circulent et la population générale, il y a plus de gens, je vous dis pas que tout le monde, mais il y a plus de gens qui sont conscients ou qui commencent à prendre conscience des effets de la colonisation. Il y en a qui s'en sont sortis, qui ont réussi à passer à côté, mais beaucoup des problèmes qu'on voit, c'est secondaire à ça. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il y a un pourcentage plus élevé de gens qui en sont conscients, mais ça n'est pas une reconnaissance universelle, non. Et quand on parle de sovereignty, food sovereignty, etc., ça, c'est des choses, des concepts qui sont pas si nouveaux pour les communautés autochtones, pour les leaders, mais c'est quelque chose qui commence à faire son chemin dans la population générale. Donc, oui. Ça peut être choquant, mais il faut que l'on fasse face. Il faut apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour être capable d'avancer. Et lors de la conférence Healing Our Spirit, c'est la première chose, il faut reconnaître the truth, et après ça, on pourra parler de réconciliation.
C'était une entrevue avec Marine Otogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local pour Choc FM 105.1.